Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, M comme Mann, Anthony Mann, l'arpenteur, avec Natasha Pfeiffer et Entebbe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Jean-Luc Godard l'appelait Man of the West, voire Superman, le plus virgilien des cinéastes. Rohmer saluait en lui l'architecte et le géomètre. Rivette voyait en lui un des metteurs en scène exemplaires de ce cinéma d'auteur que les cahiers d'André Bazin et ses jeunes turcs avaient fait émerger du cinéma hollywoodien des années 50 en général et des westerns en particulier. Car s'il est aujourd'hui surtout connu pour son cycle de 5 westerns avec James Stewart, tourné de 1950 à 1955, des westerns comme Winchester 73, qui vient de sortir en Blu-ray, ou Les Affameurs, ressortis mercredi dernier en salle en version restaurée, des films après violents qui plongent un personnage névrosé et hanté dans une nature rugueuse et hostile, et ont fait entrer avec ses contemporains Raoul Walsh et Samuel Fuller le western dans la réflexivité et la modernité, anticipant ainsi Sam Peckinpah et Sergio Leone. Anthony Mann fut plus largement un des derniers grands représentant de l'âge classique hollywoodien finissant, investissant tous les genres, de la comédie musicale, pas vraiment ce qu'il a fait de mieux, au péplum, en passant par le film noir et le film de guerre. Sauf que le classicisme de Mann n'est pas si transparent que ça, et en y regardant de près, on trouve dans ses plans une complexité, une exploration permanente de la nature et des possibilités de l'image cinématographique et de l'action qu'elle donne à voir, qui font de lui un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Cette plongée dans les images d'Anthony Mann, c'est ce que réalise un passionnant essai, le premier ouvrage en français à proposer une analyse systématique de ses films majeurs, Anthony Mann, Arpenter l'image, dont nous recevons aujourd'hui dans Plan Large la co-autrice Natasha Pfeiffer, docteur en philosophie et chercheuse à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. À ses côtés, Entebbe, incollable lui aussi sur l'œuvre d'Anthony Mann, qui en fin d'émission nous parlera d'une autre de ses marottes, le musical hollywoodien tel que revisité par un bel et lui aussi passionnant ouvrage, That's Entertainment de Fanny Beuré. Je l'ai dit, la comédie musicale qui signe les débuts d'Anthony Mann, ce n'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux, ses vrais débuts, c'est ça.
Well, you're in it now, Steve, with both feet.
I can prove I'm innocent.
You're going in there and tell him Al had nothing to do with it.
You're crazy, I'm getting out of here.
I think we can convince him to go to the police.
Steve, you outsmart yourself this time, Walt. If I take a murder rap for Al, you might as well kill me here.
I bet that new bride of yours is pretty. How about it, Steve? Pick her up.
No. Wait a minute.
Going to the police?
Yeah.
While you're there, we'll have the missus. I don't care what you tell them. But if Al doesn't walk out of that police station by midnight, your wife ain't going to be so good to look at.
Un casque qui tourne mal, un brave type qui se retrouve embringué dedans et à qui on va tenter de faire porter le chapeau du meurtre d'un policier. Ça va donner un faux coupable hitchcockien dont chacune des actions pour se disculper va évidemment l'incriminer davantage. C'est Desperate d'Anthony Mann en 1947. Ce n'est pas du tout son premier film, c'est son 11e film. Après des débuts, je l'ai dit, dans la comédie musicale et surtout dans le film noir de série B. Il y a eu un film comme La cible vivante avec Eric von Stroheim. Par exemple, sauf qu'Anthony Mann, ses premiers films, il les a toujours reniés. Et pour lui, son vrai premier film, qu'il signe donc à 41 ans déjà, c'est Desperate. D'abord parce qu'il en a co-signé le scénario, mais surtout parce que, vous le notez, Natasha Pfeiffer, avec votre co-auteur Laurent Von Eyd, c'est le film à partir duquel, je vous cite, s'esquisse très clairement un style visuel, des motifs formels et un souci des enjeux de l'image. C'est-à-dire que ce n'est pas tant un film qui reprend les codes du film noir, mais qui va les déplacer, qui va se demander qu'est-ce que c'est qu'une image qui fait noir. Natasha Pfeiffer.
Alors exactement, en fait, l'idée c'est, à partir de Desperate, il y a vraiment une appropriation du code noir, un détournement de ceci. En fait, Mann va se défaire en partie de quelque chose qui constitue le film noir jusque-là, c'est-à-dire la fermeture de l'action, la clôture du temps, l'idée que... le film débute alors que tout est déjà fini.
Ouais, ça, c'est Assurance sur la mort de Bill Wilder. On en a parlé récemment dans Plan Large. C'est-à-dire, au début, ouais, on dit, voilà, ça va se passer comme ça, c'est le destin inéluctable. Et généralement, ça se passe sous la forme du flashback.
C'est ça, donc la forme
alors
du
que
flashback,
le ouais, héros est déjà condamné. C'est pas le cas chez Anthony Mann. Chez Anthony Mann, il y a toujours de l'incertitude.
C'est ça, donc c'est exactement l'inverse. Donc moi, je récitais The Killers de Siod Mac, qui est vraiment aussi un exemple type. Donc tout commence à la fin. L'homme attend sa mort qui va être inéluctable. Et effectivement, tout le film revient à développer le flashback de comment en est-on arrivé là. Et Mann va effectivement rouvrir complètement les codes noirs en insistant sur l'indétermination de l'image, sur l'incertitude qu'elle suppose. Le noir, c'est pas tellement l'abîme, mais c'est l'incertitude. C'est cette opacité qui va peut-être s'éclaircir, on n'en sait rien en fait. C'est cette action qui n'est pas encore décidée. Mais qui est donc incertaine pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour Mann, le spectateur est au même point que le personnage dans le film. Il est dans cet inconfort de l'image. On n'est pas chez Hitchcock, par exemple, où le spectateur peut avoir de l'avance, peut avoir un certain surplomb sur l'action. Là, au contraire, très clairement, le spectateur est aussi brinque-ballé et aussi emporté. Il est lui-même plongé dans ce film, dans cet univers noir qu'il n'a pas décidé non plus d'y être, finalement.
Il est d'autant plus brinque-ballé, Anne Tebbin, que Anthony Mann, même s'il ne collabore pas encore avec celui qui sera son grand chef opérateur de ces films noirs, John Alton, avec Desperate, le spectateur s'en prend plein la figure et même, je dirais, plein les yeux. Dans l'extrait qu'on a entendu, il y a un coup de poing qui se fait en gros plan. On a l'impression que le poing va sortir de l'écran. Il y a un tesson de bouteille qui s'approche tellement de la caméra qu'on a l'impression qu'il va nous éborgner. Anthony Mann joue toujours avec la limite de la surface de l'écran.
Oui, et c'est quelqu'un qui est éminemment visuel. C'est-à-dire qu'il définissait son art, il disait, pour moi, le réalisateur, c'est quelqu'un qui voit. Et ça, ça implique quoi? C'est-à-dire, il citait même Lubitsch qui disait, il n'y a, pour filmer une scène, qu'une seule place idéale pour la caméra. Et là, la caméra, c'est vrai, elle va se recevoir le tesson de bouteille dans la gueule. À d'autres moments, c'est la lumière qui fait ça. Ici, c'est le cadre. Il y a une scène très célèbre avec la lampe qui se balance un peu comme dans le film de Clouseau, le corbeau là, et qui finalement abolit les frontières entre le bien et le mal. Et puis alors il y a ce thème du double dont vous parlez très très bien dans votre livre et qui est fondateur chez Mann, c'est-à-dire que les deux personnages qui se menacent là l'un l'autre, ils ont été amis d'enfance. Et il y en a un qui va représenter le mal et l'autre qui représente le bien, mais d'une certaine manière, c'est deux faces d'une même figure.
Les frontières sont toujours très floues, ce qui va être creusé de plus en plus par Anthony Mann dans les films noirs qui suivront, hein, La Brigade du Suicide, Marché de Brut, Incident de Frontières, La Rue de la Mort et autres. Ce très curieux film noir sur fond de Révolution française, le livre noir avec Robespierre qui dit « Don't call me Max ». Qu'est-ce qu'il apporte au genre, en particulier Natasha Pfeiffer, Anthony Mann, au genre noir?
Mais je pense précisément cette incertitude. Donc ce travail visuel, il est sans doute déjà présent avant lui, mais il y ajoute ce rapport surface-profondeur qui n'était peut-être pas toujours présent à ce point-là. Donc cette idée que effectivement ce rapport, ce lumière-ombre n'est pas donné d'avance comme lumière étant bon, ombre étant mauvais, mais plutôt comme étant précisément ce qui donne de l'épaisseur, mais donc aussi de l'incertitude à l'image. Donc en fait, il enlève toute forme de nécessité dans cette image. Il la rend indécidable. Et donc effectivement, cette porosité des rôles, du bien et du mal, cette impossibilité à décider, parce qu'en fait, finalement, le héros lui-même va devenir coupable. En tentant de fuir, en tentant précisément d'éviter cette complicité, il va se rendre lui-même coupable de voler une voiture notamment. Donc il va devoir finalement jouer de cette immaîtrise de l'action qu'il pensait en fait maîtriser totalement. Donc il était dans un quotidien très banal, très tranquille, et puis sa bulle explose. Et il est obligé de reconnaître que toute action a une épaisseur. C'est presque éthique en fait. Il est obligé de reconnaître qu'effectivement ses actions ont des conséquences qu'il ne maîtrise absolument pas.
Alors, ambiguïté, surface, profondeur, toute cette complexité visuelle qu'Anthony Mann aura expérimentée dans le film noir, il va vite l'appliquer à un autre genre.
Come in. Oh. I don't blame you for being surprised. Most people are when they discover A. Masters is a woman.
Yes, ma'am.
Is there anything I can do for you?
My name's Broken Lance. I'm an Indian.
I see. Please sit down.
I want to find out about homesteading.
I read the bill. What is it you want to know?
If I haven't got title to my land, other people can homestead it out from under me. Is that right?
Afraid so.
What I want to find out is, can I homestead my own land? Make the law work for me instead of against me?
Well, that's what most people are doing.
That's what I want to do. Will you take care of it for me?
Yes. The first thing is to prepare an affidavit. That's a bad cut.
Yes, ma'am. What do we say in this affidavit?
You're over 21. Are you the head of a family?
No, ma'am.
Not married. Are you a veteran?
3 years.
Organization?
3rd Pennsylvania Mounted Cavalry.
Major battles?
Canicksville. Antietam. Gettysburg.
You've had your share. Any decorations?
Congressional Medal of Honor.
La Porte du Diable d'Anthony Mann en 1950, c'est sa véritable entrée dans le genre western. Il y a eu Les Furies peu avant, tourné la même année. Il est très productif à cette époque, Anthony Mann. On a parlé très récemment dans Plan Large de La Porte du Diable, c'était il y a 2 semaines, quand on parlait de Robert Aldrich et de son Bronco Apache. La Porte du Diable a évidemment marqué l'histoire du western en même temps qu'un autre film tourné au même moment, La Flèche Brisée de Delmer Daves. Pourquoi ? Parce que ce sont tous les deux les premiers westerns pro-indiens. Alors, le film de Daves est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus élégiaque, et puis surtout il a le point de vue d'un blanc, qui est James Stewart d'ailleurs, qu'on va bientôt retrouver chez Anthony Mann. Ici, Anthony Mann signe un film beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus âpre aussi, et puis surtout il donne à voir le point de vue, pour le coup, d'un indien, point de vue sur l'expropriation, la déportation, le génocide, disons-le, dont a été victime le premier peuple américain. Il nous donne donc à vivre l'oppression de l'intérieur, mais comme on est chez Anthony Mann, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisque cet Indien, non seulement il est joué par un blanc, ça sont les conventions de l'époque, hein, c'est Robert Taylor qui est une grande star à l'époque, mais surtout, dans le film même, il se comporte comme un blanc, il se comporte comme un pionnier, comme un grand propriétaire terrien. Donc là, on est dans quelque chose de très complexe, très manien, Natasha Pfeiffer.
Alors oui, c'est effectivement tout à fait ça. Donc Mann va, encore une fois, brouiller les identités, brouiller l'image, donc parvenir à cette indétermination, mais cette fois-ci par surdétermination. Donc on va effectivement ajouter, il y a des couches et des couches d'identification contradictoires pour cet Indien, pour Lance Poole, qui est donc effectivement un Shoshone pacifié, qui a intégré, qui a servi l'Union. Donc c'est un vétéran, bon, en 50, c'est évidemment un vétéran de la Civil War, mais pour un spectateur de 1950, c'est évidemment aussi un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui revient et qui a les valeurs démocratiques de l'Amérique en tête. Et effectivement,
comme l'était d'ailleurs le héros de Desperate, c'est aussi un vétéran.
Effectivement, il croit. Oui, c'est vrai, ça. Très juste. Et donc, il croit fondamentalement, donc il est vraiment profondément américain, il croit en la loi, jusqu'au bout, il va croire que la loi va le sauver, alors que c'est précisément la loi qui va le démunir de ses terres. En tant qu'Indien, précisément, il n'a pas le droit de droit de propriété en tant qu'Américain à part entière. Et en même temps, effectivement, Lance Poole donc, est profondément indien, mais... Il a effectivement cette mentalité du pionnier. Donc contrairement à son père qui veut simplement jouir de cette nature, de Sweet Meadows, donc cette espèce de vallée qui est décrite de manière complètement élégiaque, complètement paradisiaque, hors temps, hors espace, lui veut véritablement en faire quelque chose. C'est un homophabère, c'est vraiment quelqu'un qui veut, de manière pionnière, construire, faire fructifier. Il va d'ailleurs devenir très très rapidement le plus gros vendeur de bétail, éleveur de bétail de toute la région.
Ce qui provoque quelques jalousies, notamment celle d'un avocat véreux joué par l'extraordinaire Louis Callahan. Et la grande question de ce film, Anne Tebbin, c'est très frappant quand on le revoit après avoir vu les films noirs d'Anthony Mann, c'est qui va occuper le cadre, qui va prendre possession du cadre. Il y a des effets de profondeur de champ tout à fait sidérants dans ce film, où souvent les méchants, ceux qui voudraient bien avoir prendre possession des terres, notamment de l'Indien Lance Poole, sont bord cadre comme ça et essayent de dominer. Ce sont des effets très très frappant.
Mann, c'est un maître de la composition, mais pas de la composition pour des vertus esthétiques. De la composition pour des vertus toujours narratives. Et c'est ce qui est très bien aussi montré dans votre livre, qui n'est pas juste une analyse de l'image, mais pour servir un propos, pour servir des personnages. Et en l'occurrence, je vous rappelle que La Porte du Diable est tournée en plein macartisme. Je pense que c'est l'un des films politiquement les plus courageux qui était tourné dans ces années-là. C'est un film féministe, avec le personnage de l'avocate qu'on a entendu là. Mann disait, c'est le meilleur scénario que j'ai jamais lu. Et il s'investissait énormément dans ces scénarios. Ce qui est intéressant avec son entrée dans le western, c'est que l'univers claustrophobe du film noir, là, Mann va découvrir ce qu'il peut en faire en extérieur. Et c'est une révolution culturelle, si j'ose dire, dans la carrière d'Anthony Mann.
Et c'est très frappant. D'ailleurs, on a beaucoup lu et écrit sur les rapports d'Anthony Mann au paysage. Mais ce que vous analysez très finement dans votre livre, Natasha Pfeiffer, c'est cette grande différence classique du cinéma entre ce que vous appelez le pays et le paysage. C'est-à-dire entre ce que le spectateur va regarder et ce que le personnage va habiter. Sauf que chez Anthony Mann, il y a des moments où le personnage regarde ce paysage comme s'il était un spectateur.
Oui, alors effectivement, la particularité de Devil's Doorway, c'est donc effectivement Donc d'habitude dans le western, effectivement, il y a cette distinction entre le pays et le paysage. Le paysage, c'est le spectateur, c'est l'œil caméra qui observe et qui a le temps d'observer ce paysage comme une image en soi. Le pays, c'est effectivement le pionnier qui est toujours en train de faire, qui n'a pas le temps de cet arrêt, de cette contemplation du paysage. Il n'y a aucun héros fordien qui va s'arrêter devant Monument Valley, simplement ils n'ont pas le temps. Ce qui est étonnant chez Mann, c'est que précisément Lance Poole prend le temps. Sweet Meadow, il l'admire autant que nous, finalement. Parce que précisément, cette image, c'est l'enjeu, enfin, donc cet espace, cette image, c'est l'enjeu de tout le film. Tout le monde veut la voir, tout le monde veut se l'approprier.
Amis! Like another miss.
I wouldn't want to say you're wrong, Marshal, but I didn't miss it.
I don't see any mark, except maybe the scratch on the inside rim.
That was my mistake. I shot through it.
You missed it.
I boil this for a minute.
Yeah?
I'll do it again if you want.
You mean you want another shot? Is that it?
No, not exactly. I'll tell you what. If I hit it, I win. If I miss it, I lose. You don't have to shoot.
Now, Lynn, don't go making any such fool deal as that. If you're going to have to shoot, he's going to have to shoot.
I'll take that bet.
Lynn McAdam says he's going to shoot a hole through this here postage stamp. Are you ready?
Uh-huh.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Anthony Mann avec Natasha Pfeiffer et Ente Bin. Il y a ceux qui veulent s'approprier un paysage, il y a ceux qui veulent s'approprier une carabine. C'est Winchester 73, le premier des cinq westerns réalisés par Anthony Mann avec James Stewart, réalisé entre 1950 et 1955. Donc il fait ce film juste après La Porte du Diable. Et c'est comme un passage de témoin avec John Ford, ce film. Ente Bin, je ne sais pas si vous avez eu cette impression en le voyant, tout simplement déjà parce qu'en arrivant à Dodge City, la ville où se déroule cette compétition de carabine, sur qui va tomber James Stewart? Il va tomber sur White Harp, c'est-à-dire le shérif que jouait Henry Fonda dans My Darling Clementine. Et Anthony Mann a beaucoup dit son admiration pour John Ford.
Oui, bien sûr, mais Mann a une conception, je pense, des rapports entre le personnage et le paysage, justement, totalement opposée à celle de Ford. On en a déjà parlé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ford va réutiliser James Stewart, que Mann avait révélé comme un héros de western, et puis Ford va le reprendre à son compte, mais pas du tout dans la même optique. Au contraire, même dans L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est plutôt John Wayne qui joue le rôle d'Anthony Mann dans les films qui joue le rôle de James Stewart dans les films de Mann. Donc, et vous avez parlé tout à l'heure du casting de Robert Taylor, qui est l'une des raisons pour lesquelles Jack Tourneur avait refusé de faire le film. Parce qu'il disait, personne n'y croira. Je voudrais juste vous lire quelque chose d'Anthony Mann sur les acteurs, sur sa façon de diriger des acteurs. Ce qu'il faut faire avec un acteur, c'est le mettre en conflit avec quelque chose qui lui est étranger mais qui l'excite. De cette façon, il doit lutter contre ce qui s'oppose à sa nature et ainsi naît un conflit entre le personnage et la personnalité de l'acteur. Il est donc possible de travailler sur deux dimensions, celle de l'acteur et celle du personnage. Si l'action se passe en extérieur, apparaît une troisième dimension. Enfin, si l'acteur doit lutter contre les éléments, doit participer à une action très violente, une quatrième dimension apparaît.
Natasha Pfeiffer, cette conception de l'acteur chez Anthony Mann, c'est vrai que c'est lui qui va révéler une noirceur chez James Stewart, dont Hitchcock va se servir aussi,
oui,
d'ailleurs, ultérieurement. James Stewart, il faut le rappeler, quand il arrive dans le western d'Anthony Mann, c'est plutôt le brave gars, l'américain moyen, c'est l'acteur de Capra.
Oui, alors effectivement, je suis complètement d'accord et je suis très contente de cet extrait que je ne connaissais pas. Puisqu'effectivement, ce qui va se révéler dans ce cycle, petit à petit, mais de manière différente à chaque fois, c'est Stewart et son double. Donc effectivement, c'est la dualité de Stewart, cette violence, cette obstination qu'il va avoir dans chaque film. Il y a une action unique qui doit être menée et qui va être menée jusqu'au bout. Dans Winchester 73, c'est peut-être le film le plus violent dans la mesure où effectivement, ce désir de vengeance va précisément aller jusqu'au bout. Il va tuer le frère, il va tuer son frère parce qu'il a tué son père. Donc c'est une loi du talion. Finalement, c'est le double, c'est son frère, justement. C'est celui dont il est le plus proche à la fois, puisque cette violence s'équivaut. Il a tué son père, donc il le tuera.
Mais il y a une chose formidable, je trouve, dans votre livre, quand vous analysez cette séquence, c'est aussi sur la vanité, en fait, de ses obsessions. Et vous dites que là où il arrive à battre au concours de tir son rival, c'est en tirant sur quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, il tire dans le trou de la pièce, donc il tire sur du vide finalement.
C'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Cette carabine Winchester 73, je ne sais pas si on dit Winchester 73 à Bruxelles.
En général, oui.
Qui donne, voilà. Alors vous pouvez le dire. Donc cette arme à feu qui donne son titre au film donne aussi la structure de la narration. C'est-à-dire qu'on va suivre cette arme qui passe de main en main et ça va donner tous les épisodes du film. Mais c'est aussi une façon de faire une sorte de. Et ça, vous le relevez aussi dans votre livre, Natasha Pfeiffer, c'est une sorte de catalogue du western. Anthony Mann va commencer comme ça, donc il va prendre toutes les figures obligées, il va y avoir la chanteuse de saloon, l'attaque de banque, les Indiens qui attaquent, menés par Rock Hudson dans un de ses tout premiers films. Il y aura Tony Curtis qui va jouer aussi un de ses premiers films, un officier de la cavalerie, puisqu'il y a forcément la cavalerie. Enfin, il y a tous les éléments du western sont là, comme si Mann, parce qu'après il va complètement les oublier, comme si Mann disait, voilà, le western, c'est ça.
Alors effectivement, ce film est assez étonnant puisqu'il a une double structure narrative. Il est à la fois une espèce d'errance, puisque finalement, on pourrait dire d'un premier point de vue, bah, ce film ne fait que suivre l'arme qui passe de main en main de façon totalement hasardeuse. Et c'est effectivement par ce biais-là qu'on a tous ces petits épisodes typiques du western, la petite ville, le jour de poker, le poss, l'indien. Enfin, donc tout y passe, effectivement, il y a un catalogue des possibles qui s'ouvre de manière complètement hasardeuse, sans nécessité aucune. Et puis, effectivement, en sous-main, ce qui reste l'unité du film, c'est l'obsession. Donc, il y a effectivement une tension entre une errance et une poursuite. Donc, il y a une seule action. D'un côté, il n'y a que Stewart qui veut poursuivre son frère. C'est la seule chose qui se passe dans ce film. Et en même temps, effectivement, on a un catalogue totalement complet du western qui sera abandonné par la suite.
À ce catalogue, il manque tout de même quelque chose d'important. La caravane des pionniers, la voici.
We'll go slow, Laura, and take it nice and easy. Get there, you!
Could swing west along the Columbia River, head down the coast.
That's what I figured.
About this business of ranching, are you sure you're going to go through with it?
Very sure.
McClintock of the border, a rancher. I don't get it. Who are you running away from?
Get up there! Get up! A man by the name of Glenn McClintock.
Well, what happens when he catches up with you?
I don't think he's going to catch up with me. I think he died on the Missouri border.
You're wrong. He'll catch up with you one of these days. Does the old gentleman know about you?
Nope.
Want me to tell you what'll happen when he finds out?
Maybe I'd rather wait and find out for himself.
Les Affameurs d'Anthony Mann, on est en 1952. Le film vient de ressortir en salle. Il y a un plaisir de l'onomastique aussi chez Anthony Mann. Après Lynn McAdam qu'il jouait dans Winchester 73, James Stewart devient Glenn McClintock. Face à lui, Emerson Cole. Ce sont deux anciens pillards du Missouri, comme on les appelle, qui partagent l'expérience d'une pendaison, enfin d'une pendaison ratée, heureusement pour eux, et qui vont accompagner une caravane de pionniers avec cette grande question. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'une rédemption est possible? Les hommes sont-ils des pommes? Ou les hommes sont-ils différents des pommes? C'est-à-dire quand il y a une pomme pourrie, il faut la jeter pour éviter de contaminer le reste. Ça reviendra régulièrement comme métaphore dans le film. Et pour le coup, le double. Alors là, on avait les frères ennemis tout à l'heure. Là, c'est le double, mais avec une complexité dans cette figure du double qui est extraordinaire. Parce qu'il y a donc James Stewart et Emerson Cole, Arthur Kennedy, se ressemblent, ils ont le même parcours, ils doivent faire des choix, et l'un finalement est presque ce que pourrait devenir l'autre. Il y a des doubles dans les pionniers aussi, c'est-à-dire qu'il y a les pionniers vertueux, ceux qui vont s'installer, faire une ferme, etc. Et puis les chercheurs d'or qui eux sont dans le mal absolu. Et il y a même une ville qui va changer, il y a la ville de Portland qui de jour est une ville merveilleuse et qui de nuit devient un tripot à ciel ouvert. Natasha Pfeiffer.
Oui, donc effectivement c'est une nouvelle variation sur le double, qui n'est plus tellement celle qu'on avait dans Winchester, mais donc effectivement, c'est plutôt la question du devenir qui maintenant occupe Mann. Le héros, donc Stewart, est vraiment obsédé par l'idée de pouvoir se racheter, donc c'est l'idée d'une rédemption. Et Emerson Cole fonctionne effectivement comme son double dans la mesure où il est le risque de toujours retomber dans ce qu'on est, de s'enliser dans ce qu'on est, de rester ce qu'on est. Ce qu'on voit dans tout le paysage, donc ces deux vers permanents, donc cette espèce de pente qu'on retrouve en fait dans tous les films de Mann sous des formes différentes. Donc en fait c'est déjà la contre-plongée qu'on avait dans les films noirs qui devient en fait paysage dans les westerns. Et c'est vraiment ce paysage qui incarne ce devenir. devenir, ce potentiel devenir, et donc tout le risque que ce devenir aussi rend possible. Donc effectivement, la pente, c'est la possibilité de tomber, c'est la possibilité de retomber où on était et de ne pas parvenir à changer. Et donc Emerson Cole ne peut pas se débarrasser de Stewart, et Stewart ne parvient pas à se débarrasser d'Emerson Cole jusqu'à la fin où évidemment, effectivement, l'un des deux doit disparaître.
Il faut qu'il y ait un choix, on verra ça aussi dans la chute de l'Empire romain, hein, jusqu'où repousser la résolution. Alors effectivement, sans doute, apport majeur de Mann dans un western qui était plutôt frappé, marqué par l'horizontalité et la verticalité, lui c'est vraiment le travers, la diagonale, le déséquilibre permanent, et surtout c'est le premier film en couleur d'Anthony Mann M.T. Bean, et il va faire du Technicolor une utilisation magistrale.
Oui, d'ailleurs c'est l'une des vertus de votre livre de procéder à une étude chromatique des films de Mann, ce qui est très très rarement fait, hein, parce que c'est très difficile à faire, mais l'évolution de la couleur dans un western de Mann est toujours signifiante, et en fait correspond aux évolutions des personnages en général. Alors il y a une chose très intéressante dans la façon de travailler d'Anthony Mann, c'est-à-dire qu'il participait de près à l'écriture des scénarios quand il le pouvait, et c'était très souvent le cas, et il le faisait en ayant déjà visité les extérieurs. Parce que c'est ce qu'il va découvrir avec le western, c'est que non seulement on peut aller loin des studios et du contrôle des producteurs des studios, mais aussi on va pouvoir traduire en images le voyage du personnage, puisque tous ces films sont des voyages. C'est des road movies. Même Desperate, à un moment, il y a une fuite dans un camion, etc. Et ce voyage est à la fois intérieur et extérieur. Et il y a une autre chose que je voudrais vous raconter sur les citations d'Anthony Mann. Il dit: le but des extérieurs est de magnifier les personnages qui y évoluent, car quelqu'un qui est mineur dans ses sentiments ou mineur en tant qu'acteur peut devenir sensationnel quand il est placé dans une ambiance picturale également sensationnelle. Et ben ça, je pense que c'est l'un des secrets de fabrication de Mann. Il a eu l'idée de certains films à partir de voyages de repérage. Le Cid en Espagne, la Norvège avec les héros de Télémark, il dit que c'est d'avoir vu les décors qui lui ont fait voir le film.
Reardon.
Yes, sir.
Throw it away.
I just thought maybe I could fix it, sir. Might run into a hot line someplace. I could hook up to battalion.
Battalion?
Yeah.
A battalion doesn't exist. Regiment doesn't exist. Command headquarters doesn't exist. The USA doesn't exist. They don't exist, Reardon. We'll never see them again.
Don't say that, sir.
That's true.
I know it is. But it scares me when you say it.
We're the only ones left to fight this war.
We're still alive. And we can fight if we have to. We got a jeep full of ammunition and weapons.
Well, before you fight, you gotta think. And I can't think anymore.
I'm sure if there's any way to do it, sir, you'll find it.
Well, how do I do it, Reardon? How do I do it? How do I take a hill with 12 men, huh?
I don't know. But if there is a way, I'm convinced you'll find it, sir.
We got no choice. We got no place to go.
On est le 6 septembre 1950 en Corée et le lieutenant Benson, incarné par Robert Ryan, est très déprimé après une attaque qui a décimé sa patrouille. J'ai traduit ses propos. Le bataillon n'existe plus, le régiment n'existe plus, le quartier général n'existe plus, les États-Unis n'existent plus. On ne les reverra plus jamais. Nous sommes les derniers survivants pour combattre cette guerre. C'est le seul véritable film de guerre réalisé par Anthony Mann. C'est Code 465, Men in War. On est en 1957. Film à très petit budget, produit par Anthony Mann lui-même avec la société qu'il avait montée, Security Pictures, qui va produire rien moins que La Chevauchée des Bannis d'André de Tocque, qu'aurait dû réaliser Anthony Mann. Cette question de plus rien n'existe autour de nous, on est tout seul, c'est précisément ce que dit la mise en scène d'Anthony Mann. Le cadre est très resserré. Il y a, vous parliez du paysage et de l'importance des repérages, on est dans une sorte de plaine avec des herbes hautes. Les soldats ne voient rien et pourtant l'ennemi est tout autour, mais eux, ils sont enfermés dans un cadre. Natasha Pfeiffer.
Alors oui, non, c'est exactement ça. Donc, en fait, la première chose qu'on remarque dans ce film, c'est qu'il n'existe aucune extériorité à ce bataillon qu'on suit. aucune extériorité à ce qu'ils sont en train de vivre. On ne peut pas en sortir, eux ne peuvent pas en sortir non plus. Il n'y a aucun point de vue de surplomb qui est possible. Et ça, c'est extrêmement étonnant pour un film de guerre. Généralement, il y a des photographies, des lettres, une manière de renouer avec le foyer perdu ou qui demeure lointain. Donc une manière de renouer avec quelque chose justement d'extérieur, un état de paix, qu'il soit véritable ou oublié, mais donc une extériorité quelconque. Et là, en fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de flashback non plus. Il n'y a rien. Donc on reste dans cet état-là. On reste dans ce cadre extrêmement serré. Vous avez raison. Et ce qui fait qu'on a une impression, mais qui est justifiée par le scénario, d'être toujours encerclé. Encerclé par cet ennemi qui a précisément, lui, l'avantage de nous surplomber. Donc il y a effectivement encore cette petite pente qui demeure dans tout le film.
Il ne voit rien.
Et l'ennemi, par contre, lui, voit tout le temps.
Alors, il y en a un qui n'a pas besoin de voir pour tuer, c'est le sous-officier, le sergent Montana. On est 10 ans avant les 12 salopards de Robert Aldrich, dont on parlait là encore il y a 15 jours, et Anthony Mann montre quand même que pour gagner une guerre, il faut des assassins.
Il montre, en fait, il dit des choses. Vous avez dit que l'histoire des États-Unis disparaît un petit peu dans ces films, mais en fait, elle est toujours là, sous-jacente, et toujours de façon très très importante. Et ce que raconte Mann d'un film à l'autre sur son pays, ce qui est quand même très étonnant, je pense qu'il va s'inspirer même de la tragédie grecque pour montrer ça, c'est que c'est un pays qui s'est bâti sur des morts. Alors, il y a les morts, il y a les Indiens, qui ont le génocide indien dans la Porte du Diable. Il y a les morts de la guerre civile sur lesquels on va se reconstruire, etc. Et puis là, il y a effectivement, les morts dans Côte 465, c'est horrible. C'est un film d'horreur, en fait. Non, mais c'est vrai.
Ah oui, non,
et
mais
moi, je trouve qu'il y a, j'ai parlé tout à l'heure de Jacques Tourneur. Il y a beaucoup de points communs entre Mann et Tourneur, y compris d'avoir travaillé dans les mêmes genres, le film noir, le film de guerre, le western. Et c'est vrai que Mann, c'est un vrai auteur. Un vrai auteur, au sens de quelqu'un qui trimballe avec lui son univers et ses obsessions. C'est-à-dire, ces westerns de la grande période, par exemple, il y en a fait pour la Universal, il y en a pour la MGM, il y en a pour la Columbia, et ils sont pareils. Donc, et c'est très très rare quand même dans le cinéma hollywoodien. Autre chose, il a réalisé quand même deux des films qui ont cette particularité exceptionnelle dans le cinéma américain, je crois. Ces deux films sont L'Appa et Code 465, où il n'y a pas un seul intérieur, pas une seule scène en intérieur. C'est rarissime, hein. Même dans les films de guerre, en général, il y a toujours une scène dans une baraque où il y a un flashback. Et là, non. On est face à un extérieur qui est menaçant, qui n'est pas un reflet, au contraire. Il n'est pas du tout expressionniste, Mann. C'est pas un reflet de l'intériorité des personnages. C'est quelque chose qui écrase les personnages.
Et qui entoure le personnage. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va rester dans le cadre ou pas? J'aime beaucoup cette façon que vous avez dans votre livre, Natasha Pfeiffer, de dire que non seulement les Coréens, l'ennemi presque invisible, maîtrise la nature alentour, mais il maîtrise même l'objectif, il maîtrise même le cadre. Et là, il a la caméra. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'on va rester dans le cadre ou pas? Parce que dès qu'on sort du cadre, on est mort.
Donc effectivement, sortir du cadre, c'est la mort. Le cadre est à la mesure de la menace et la menace est permanente. Donc effectivement, le cadre est extrêmement serré et il vaut mieux rester dedans. Donc l'idée, effectivement, donc je suis assez d'accord avec cette idée que c'est un film d'horreur parce que effectivement, l'impression qu'on a, c'est que le film a déjà pris parti, l'image a pris parti et elle est du côté de l'ennemi. C'est ça qui est terriblement effrayant. C'est qu'en fait, ce noir et blanc, par exemple, effectivement, c'est un film à petit budget, donc peut-être qu'il ne pouvait pas se permettre de la pellicule couleur, mais pour autant, en fait, le noir et blanc sert totalement l'objet, puisque ça camoufle parfaitement les Coréens en couleur. Je ne pense pas que ça aurait fonctionné aussi bien. Donc, il y a l'idée que l'image a pris totalement parti, et elle a pris parti pour les Coréens.
Consuls, princes, you have come from the deserts of Egypt, from the mountains of Armenia, from the forests of Gaul and the prairies of Spain. You do not resemble each other, nor do you wear the same clothes, nor sing the same songs, nor worship the same gods. Yet, like a mighty tree with green leaves and black roots, you are the unity which is Rome. Look about you and look at yourselves. and see the greatness of Rome. 200 years ago, the Gauls were our fiercest enemies. Now we greet them as friends. In the whole world, only 2 small frontiers are still hostile to us. One here in the north, which separates us from those who are called barbarians, the other in the east, Persia. Only on these 2 borders will you find walls, palisades, forts, and hatred. But these are not the frontiers Rome wants. Rome wants and needs human frontiers.
Ce ne sont pas les frontières que veut Rome, ce que veut Rome, ce sont des frontières humaines. C'est Alec Guinness en Marc Aurèle dans La chute de l'Empire romain. Vous écoutez France Culture et La chute de l'Empire romain, c'est le dernier film à notre programme dans ce plan large consacré à Anthony Mann, dernier grand film d'Anthony Mann, film à très mauvaise réputation que cette chute de l'Empire romain, pas seulement parce que à sa sortie ça a été un échec à la fois critique et public, il figure dans la liste des films les moins rentables de toute l'histoire du cinéma. 2 millions, même pas 2 millions de dollars de recettes pour un budget de 20 millions, ça fait moins de 10%, ça va provoquer la faillite de son producteur, le très ambitieux Samuel Bronson, et surtout ça sonne le glas de la vogue du péplum à Hollywood. Un an avant, il y a eu le Cléopâtre très dispendieux de Mankiewicz qui avait certes préparé le terrain. Ce qui est étonnant, c'est que quand le péplum va revenir à la mode à Hollywood, ça sera en 2000 avec un film qui fait un triomphe, Gladiator de Ridley Scott. Ridley Scott, comme souvent, oublie de citer ses sources. Gladiator, c'est quand même le remake tout à fait inavoué de cette chute de l'Empire romain. Mais encore aujourd'hui, NTB, on reproche au film sa longueur, on reproche au film de ne pas savoir choisir son sujet, d'avoir raconté 2 histoires qui auraient pu faire 2 films séparés. Or, on connaît l'intérêt de Mann pour le double et la dualité. C'est justement ça qui fait l'intérêt du film.
Absolument. Alors, merci Antoine d'avoir programmé cet extrait, parce que j'avais pas revu ce film depuis mon enfance, où il m'avait quand même traumatisé. enfin, les scènes avec les barbares, etc. Bon. Et puis, Mann, d'abord, premièrement, il était très fier de ce film. Il était très fier d'avoir participé à l'écriture du film, et il disait que c'était très fidèle à ce qu'il avait lu des livres d'histoire sur l'époque. Et puis il analysait aussi l'échec du film. Il disait notre erreur, c'est comme pour les Furies, c'est d'avoir fait un film sur la défaite. Et le spectateur, notamment américain, n'a pas envie de voir des héros qui sont défaits. Or, c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de ce film. Et l'un des paradoxes aussi, c'est qu'il utilise, comme toujours, les extérieurs d'une manière magistrale. Mais lorsqu'il a des décors de studio, ça n'est pas du tout contre les extérieurs. Par exemple, je sais pas moi, dans Spartacus, que Mann n'a pas pu finir, les intérieurs de studio et les extérieurs sont totalement, ou dans Cléopâtre, sont totalement aux antipodes les uns des autres. Non, là, il utilise le décor de la même manière, cet immense décor du forum, où il arrive à circonscrire un mini espace intime pour le duel final. C'est une leçon aussi qu'il a appris du western. C'est-à-dire que on est dans un paysage infini, et puis on va resserrer pour s'attacher à l'itinéraire et au parcours des individus.
Il n'y a pas solution de continuité entre les extérieurs et les intérieurs, notamment par l'utilisation, là encore, des couleurs. Dans ce film que vous décrivez très finement dans votre livre, Natasha Pfeiffer, l'opposition entre Livius et Commode passe par l'opposition entre le bleu et le jaune, sauf que l'utilisation de ces paysages vire parfois à l'abstraction totale. Enfin, il y a un irréalisme revendiqué chez Anthony Mann. Je pense à cette course de chars dont vous parlez aussi dans votre livre. Commande de Samuel Bronson à Anthony Mann, fais-moi du Ben-Hur en encore mieux. Donc dans Ben-Hur, il y a une course de chars. Il va falloir une course de chars ici, sauf que là, c'est moins une course de chars qu'un duel à mort entre les 2 personnages. Ils sont côte à côte, les 2 chars, sur un chemin très étroit de montagne. Il y a un précipice, forcément, puisque c'est un chemin de montagne. Sauf que, par le principe du champ contre champ, le précipice est des 2 côtés. C'est très étonnant, cette scène.
Alors, oui, totalement. Donc, effectivement, l'idée est de jouer sur le dilemme. Donc, Boyd ou Plummer, donc Commode ou Livius. Tout en sachant qu'il y a une impossibilité des 2, en fait, c'est le principe du dilemme. Donc c'est soit, mais en même temps, les 2 mènent à rien, mènent à la chute, au final. Et donc c'est ce précipice qui passe d'un côté à l'autre, Donc totalement irréel, mais le film est pour beaucoup en fait totalement irréel. Donc il y a aussi la bataille avec la Perse où on ne comprend plus qui est qui et qui se bat pourquoi, parce que précisément il y a cette volonté chromatique d'opposition entre le bleu et le jaune, mais qui crée en fait une impossibilité de savoir qui est dans le camp de qui. Et donc il y a une espèce d'impossibilité de l'image d'énoncer ce dilemme lui-même. Et pour la course de chars, bon, alors, effectivement, la course de chars est absurde de A à Z, dans la mesure où elle n'a aucun terme, elle n'a aucun but, si ce n'est précisément de se tuer. Ils ne vont pas y parvenir, puisque sinon ce serait déjà la fin du film. Mais donc ce précipice qui est des deux côtés, c'est l'idée précisément que le dilemme ne peut s'énoncer qu'au bord du précipice, le dilemme ne peut s'énoncer que par la mort.
Philippe Jordan, le scénariste, le grand scénariste, qui est celui qui a travaillé le plus souvent avec Anthony Mann, et étonnamment disait que Mann n'était pas quelqu'un de cultivé, mais il le définissait par opposition à Nicolas Ray, avec qui il a aussi beaucoup travaillé. Il disait Anthony Mann était un homme de concept. Et je pense que ça, votre livre le montre très bien. C'est-à-dire que c'est pas un homme uniquement de forme, c'est pas un homme d'obsession thématique, c'est un homme qui a besoin du concept qui unit les deux pour pouvoir faire l'épine dorsale de son film.
Donc oui, non, c'est totalement ça. Donc je pense que ce film a effectivement été très très mal jugé parce qu'il tente de rendre compte d'une lutte intestine en fait. Et donc effectivement, l'ennemi n'est pas extérieur, et donc peut-être que ça plaît moins l'idée que c'est à l'intérieur qu'on va aller trouver le problème. Le problème ne quitte pas l'image, il n'est pas dehors, il est là-dedans, il est à l'intérieur. C'est effectivement l'idée à la fin de l'arène. Il n'y a pas d'arène dans ce film, donc c'est un péplum sans arène. Ça n'existe pas a priori, il n'y a pas de péplum sans arène. Et là, il en crée une, mais qui en fait mobile, toute petite, qui n'est fait que de boucliers. Donc l'idée finalement, c'est que le cadre est cette arène elle-même. L'image entière est cette arène et cette lutte intestine qu'il va falloir trancher à un moment.
Anthony Mann n'a pas tourné que des westerns avec James Stewart, il a aussi fait un biopic romance inachevé, alias The Glenn Miller Story, un film à la bande-son impeccable. On clôt donc cette séquence Anthony Mann par le In the Mood du tromboniste swing et fringant bandleader. Merci Natasha Pfeiffer, votre monographie analytique Anthony Mann, arpenter l'image, co-signé avec Laurent Van Aid, est édité par les presses universitaires de Septentrion, à compléter avec le dossier très complet Ntebin que la revue Positif avait consacré au cinéaste en 2005. C'était le numéro 527 dont sort la plupart des citations que vous nous avez données. Les Affameurs en copie restaurée, ressorti mercredi sur les écrans en version restaurée. Quant à Winchester 73 ou 73, vous pouvez le revoir en Blu-ray chez Sidonis, avec présentation du film par Patrick Brion et Bertrand Tavernier, avec aussi un livret de 40 pages qui raconte tout sur la carabine Winchester 73. Et puis il y a aussi dedans l'étrange remake du film de Mann qui avait été réalisé pour la télévision en 1967. Les amateurs de western, un rien plus tardif, iront à la Cinémathèque de Toulouse qui propose une rétrospective western spaghetti jusqu'au 20 mars, parallèlement à une autre consacrée dans un autre genre à Sacha Guitry. Eric von Stroheim, je l'ai dit tout à l'heure, a joué dans un film noir d'Anthony Mann, c'était La Cible Vivante. Le cinéaste n'en gardait pas un très bon souvenir, on pourra juger sur pièce avec la rétrospective Eric von Stroheim que présente la Cinémathèque française à Paris du 27 février au 10 mars. Cinémathèque française où se tiendra le week-end prochain du 1er au 3 mars une carte blanche à Jean-Max Causse, le co-créateur des studios Action et actuel patron avec son fils François de la Filmothèque du Quartier Latin. On y verra notamment en avant-première de sa réédition le long métrage qu'il avait réalisé en 1972, Le Franc-Tireur avec Philippe Léotard, un film qui raconte les combats du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, un film très influencé par un certain Code 465 d'Anthony Mann. On n'en sort pas, très influencé aussi par les westerns d'Anthony Mann. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, Anthony Mann a commencé en signant quelques comédies musicales qui n'ont pas très bonne réputation, on ne peut pas être bon partout, heureusement d'autres étaient là pour ça.
Paris loves lovers, for lovers it's heaven above. Paris tells lovers love is supreme, wake up your dream and make love only in Paris. One discovers the urge to merge with the splurge of the spring. Paris loves lovers, for lovers know that love is everything.
Pleasures, Paris. How was it you said? The urge to merge with a splurge.
That's right.
Paris.
Capitalistic.
Love, lover.
Characteristic.
For lovers.
Sensualistic.
It's heaven above.
They should be atheistic.
Paris.
Imperialistic.
Tells lovers.
I'm pessimistic.
Love is supreme. Wake up your dream and make love.
That's anti-communist.
Only in Paris.
Militaristic.
One discovers.
You're optimistic.
The urge to merge with the splurge of the spring.
Bourgeois propaganda.
Paris.
Unrealistic.
Loves lovers, for lovers know that love
is individualistic.
Is
and not at all collectivistic.
Everything.
But a low totalitarianistic thing.
Paris Loves Lovers et sa critique réaliste socialiste par Fred Astaire et Sid Charisse. Enfin, pour la voix, c'est la ghost singer Carol Richards, précisons-le. C'est dans La Belle de Moscou, le remake en musical par Ruben Mamoulian du Ninotchka d'Ernst Lubitsch. C'était en 1957. C'était évidemment à prévoir. Avec Entebbe, on ne pouvait pas ne pas reparler de comédie musicale. On pensait que tout avait été dit avec la formidable exposition que vous avez montée à la Philharmonie de Paris, que vous nous avez fait visiter en novembre dernier. Dans Plan Large, exposition qui s'est achevée il y a un mois, après avoir fait plus que le plein de visiteurs. Eh bien non, une nouvelle étude du genre signée Fanny Beuret vient de paraître chez Sorbonne Université Presse. Ça s'appelle That's Entertainment. Et il a beau être tiré de la thèse que l'autrice avait soutenue en 2015, Let's Face the Music and Dance, la comédie musicale hollywoodienne classique au prisme de l'entertainment. C'est un très beau livre, richement illustré, avec notamment de nombreux photogrammes. Qu'est-ce qu'il apporte de plus la connaissance qu'on peut avoir du musical hollywoodien, Entebbe, vous qui en savez déjà tout.
Bah, ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est, alors vous l'avez dit déjà visuellement, on n'a jamais vu un ouvrage inspiré d'une thèse avec des si belles images. Les photogrammes sont exceptionnels. Et quand on fait une analyse de séquence et qu'on peut voir exactement, on n'a pas besoin d'avoir vu le film avant et de revoir le film après pour valider la pertinence de l'analyse. Alors là, c'est vraiment le point fort du livre, c'est qu'il mêle toutes les lectures possibles et toutes les analyses pour formuler sa propre, disons, optique du genre musical.
C'est-à-dire que c'est un livre transatlantique, d'une certaine manière, qui allie la critique formaliste à la française, oui, à la critique de fond idéologique à l'américaine.
Absolument. Et qu'il le fait sans mettre les uns contre les autres, mais en s'enrichissant tout le temps. Et en montrant que cette multiple grille de lecture ne fait que complexifier finalement ce qui au départ est censé être un simple divertissement qui, le rappelle Fanny Beret, est une mauvaise traduction du mot « entertainment ». Que « entertainment », ça veut dire certes produire du spectacle, mais ça veut aussi dire recevoir ce spectacle. Donc il y a aussi les études dites de réception, avec beaucoup d'analyses de comment les spectateurs réagissaient. Il y a des analyses, même des commentaires qu'ils faisaient après les projections de tests. Et puis on va aussi aux sources, c'est-à-dire que on ne nie pas du tout l'historicité du genre, les sources. Est-ce que vous saviez, par exemple, que la danse animalière tribale africaine a influencé le musical à travers notamment tous les Afro-Américains qui posent d'ailleurs problème. Donc il y a une analyse idéologique genrée, mais aussi raciale.
Oui, mais le genre, c'est la grande question. D'ailleurs, on en avait parlé, ouais, il me semble, quand on avait visité cette exposition avec vous. Les études de genre ont apporté une nouvelle lecture qu'on ignorait un peu parce que ces histoires étaient un peu cachées à l'époque à Hollywood, montrant finalement que la comédie musicale, dénoncée pendant longtemps comme l'art conservateur par excellence, chantant les vertus de la norme de la famille américaine, etc., était en fait beaucoup plus subversive que ça.
Oui, c'est-à-dire que dans le cliché idéologique des années, disons, post-marxiste des années 70, le musical est un symptôme de tout ce qu'il faut abattre dans le cinéma américain, parce que c'est la masculinité dominante, blanche, hétérosexuelle. Et ce que montre Fanny Beret, en analysant, mais d'une façon très très minutieuse, les plans, même les paroles des chansons, les cadrages, les mouvements de caméra, tout ça preuve à l'appui avec les images, c'est que à l'intérieur des numéros musicaux eux-mêmes, il peut y avoir une contestation ou tout au moins parfois une transgression de cette norme dont vous parliez. Et c'est ce qui fait la richesse de ce livre, qui ne prétend pas non plus détruire tout ce qui a été analysé ou réfléchi avant, mais qui le prend pour lui faire le faire avancer d'un pas de plus.
Vous pouvez donner un exemple de cette subversion dans un numéro musical ?
Oui, par exemple, il y a beaucoup d'analyses, par exemple, de duos entre Judy Garland et Gene Kelly. Alors, ce qu'elle montre, c'est que la virilité exagérée de Gene Kelly est intéressante parce qu'elle est ambiguë. Il est presque trop viril. Il en devient une sorte d'objet parfois de contemplation érotique pour les personnages féminins des films, ce qui inverse les théories féministes comme quoi le musical ne serait que sur le male gaze, c'est-à-dire le désir masculin du spectateur. Et puis Judy Garland, par son intensité et l'émotion qu'elle dégage, est sur la voie d'une sorte d'émancipation du personnage féminin par rapport aux normes de la girl next door. Fanny Beret explique très bien que la mise en scène pour cela est très importante. C'est-à-dire, par exemple, elle compare une séquence de Meet Me in St. Louis réalisée par Vincent Minnelli avec son presque exact corollaire qui est une séquence de Doris Day dans un film qui s'appelle On Moonlight Bay, qui est presque une imitation du premier. Et elle démontre comment la mise en scène de Minnelli parvient à remettre finalement en question, tout en faisant mine d'y souscrire, les codes et les clichés et les conventions du musical.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is just waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land.
Merci Entebbe, on obéit à Judy Garland et on est heureux en l'écoutant chanter Get Happy dans Summer Stocks de Charles Walters. That's entertainment, musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique de Fanny Burry. C'est chez Sorbonne, Université Presse.
Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day, forget your troubles.
Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, il y aura toutes sortes de bêtes à poils et à plumes dans Plan Large. Nous recevrons Jonathan Palumbo et Camille Brunel, auteurs respectifs d'Après la nuit animale et du cinéma des animaux. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy, Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy, we're going to the promised land. Cross a river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.